C'est évidemment avec beaucoup d'émotion que je vais vous parler ce matin. Mais voilà ce que disait Sarah, le regard de Bruno sur la métallurgie ouest-africaine. Son apport, c'est pour nous archéologues, je dirais, une mise en chair de nos vestiges archéologiques qui nous parle peu. Et que lui nous permettait d'approcher différemment. La première fois que j'ai rencontré Bruno Martinelli, c'est lors d'une journée d'études organisée par Maxence Bailly, ici présent, donc à la MMSH. Les intervenants étaient principalement des doctorants en archéologie. Et j'en faisais partie, j'avais été invitée, j'étais en thèse à Genève. Ma thèse portant sur les traditions sidérurgiques et l'histoire des forgerons au pays d'Ogon, je connaissais bien évidemment les travaux de Bruno, mais je ne l'avais pas encore rencontré. J'étais à ma deuxième année ou troisième année de thèse, et j'avais un certain trac parce que mes conclusions, mes interprétations sur le milieu d'Ogon étaient différentes, pas forcément en accord avec celles de Bruno Martinelli, et donc j'avais un certain trac à les présenter, et je me souviens qu'il était intervenu après ma communication pour parler notamment de la réactivation qu'il avait menée au Burkina Faso, et il avait juste dit qu'il était heureux que quelqu'un s'intéresse à nouveau à ce sujet, et que cette personne montre une complexité et une diversité plus importante qu'il n'avait vu à l'époque, ne le gênait aucunement et même l'intéressait. Et c'est vraiment cette ouverture au débat, à la discussion, cette curiosité et appétit des connaissances que j'ai toujours vu chez Bruno lors de nos rencontres suivantes. Et c'est donc tout naturellement que je lui ai demandé de faire partie de mon jury de thèse, il en a été même le rapporteur. Donc cette thèse a été soutenue à Genève en 2008, et je lui ai également demandé d'effectuer mon post-doctorat dans son laboratoire. Donc je suis arrivée fin 2009, fin 2008 dans son laboratoire. J'y ai passé un an et demi, j'étais l'archéologue de service, on va dire. On a toujours un petit peu on est face aux intellectuels, nous on gratte la terre, on essaye d'interpréter, et donc il y avait une certaine appréhension d'être dans ce monde, mais cette année et demie où j'ai passé mon doctorat a nourri mes réflexions, puisque j'y ai aussi préparé mon programme de recherche CNRS qui s'est conclu positivement puisque j'ai été recrutée en 2010, mais ça nous a donné aussi l'occasion d'organiser un colloque sur la métallurgie du fer. Je vais vous passer les actes qui ont été publiés en 2012, et pour Bruno ça lui permettait de renouer avec un de ses sujets fétiches, la pluralité technique dans la production du fer. Certes, c'est un sujet, je dirais, qu'il a abordé plutôt avant les années 2000, mais même quand il a été en Centrafrique, et d'ailleurs la revue en ligne en a un article, il a encadré un étudiant de Bangui sur des fouilles archéologiques sur la métallurgie. Je crois que l'article était paru en 2006, quelque chose comme ça. Donc on voit que malgré tout, ce sujet-là était toujours très présent. Je l'ai après contacté, donc après mon recrutement, parce que j'avais, ça c'est plutôt de l'histoire personnelle, mais j'avais basé tout mon programme de recherche sur la boucle du Niger, donc Mali, Niger, Nord, Burkina, c'est-à-dire territoire Al-Qaïda. Donc je rentre au CNRS juste après, et donc il fallait que je cherche un autre terrain de jeu. Et étant spécialiste de la métallurgie, mais plutôt dans métallurgie de surplus, voilà, intensive. Bien évidemment, ben, le Togo et la région Bassar s'imposaient. Et comme il y avait travaillé, je l'ai recontacté pour avoir des... voilà, on a discuté de mon projet, de ce que je pouvais mener. Il a été de fort bons conseils, puisque l'ANR a été un succès, je veux dire. Et c'est assez drôle parce que, je veux dire, à rebours, j'ai l'impression de reprendre des terrains de Bruno, puisque lui a commencé la métallurgie au Togo, Burkina, Mali. Moi, j'ai commencé au Mali, j'ai travaillé au Burkina, maintenant je suis au Togo. Donc, il y a un sens inverse. Et en 2013, nos dernières collaborations ont été fortuites, même s'il n'y a jamais réellement de hasard dans la recherche. On est un très petit milieu. Eh bien, j'ai été appelée à collaborer et à participer au programme FSD Grand Écosystème Lacustre Tchadien. Et je me retrouve également embarquée donc la formation à leur côté archéo au N'Djamena. Et on y est allé l'année dernière, et là il y a une mission archéologique qui va se monter en novembre. On en avait discuté avec Bruno, parce qu'il voulait lui travailler sur le lac Hiro. Il était très enthousiaste à ce qu'on collabore ensemble sur le terrain, sur un nouveau terrain collectif, avec, je dirais, mon approche de... archéologique de l'histoire du peuplement et la sienne sur les périodes plus récentes. Hélas, la maladie de Bruno l'a emporté et on n'a pas pu faire du terrain ensemble. Bien évidemment, mon intervention porte sur la phase, je dirais, des recherches de Bruno Martinelli sur la métallurgie du fer. Et dans la lignée qui a été évoquée ce matin de Leroy Gourhan, Bruno s'était intéressé très tôt à la compréhension de la multiplicité des procédés, des processus et des dispositifs mis en place par l'homme pour transformer la matière et élaborer des objets. Alors, même s'il a abordé différentes activités, pêche, céramique, agriculture, c'est celle de la métallurgie du fer, la métallurgie traditionnelle, qui monopolisa une grande partie de son attention et de ses terrains africains. Bruno fut très tôt cité, lu, invité par les archéologues, car ses recherches s'inscrivent à la fois dans une démarche de production de l'histoire. Il a toujours été attaché à regarder également la profondeur historique, ce qui, parfois, en tant qu'archéologue, les discussions avec les ethnologues et les anthropologues sont difficiles, puisqu'on a, nous, on approche ça dans la longue durée, et c'est plutôt des terrains de l'immédiateté. En tout cas, lui, il avait cette volonté de production de l'histoire, et on le verra tout au long de sa recherche. Il avait aussi une démarche de comparaison, comparaison des techniques qui pour nous est d'une grande utilité avec la production de modèles et de compréhension des mécanismes humains dans l'élaboration des techniques. Donc aujourd'hui, je souhaite vous parler et vous présenter trois terrains et trois questionnements chers à Bruno et indispensables aux archéométallurgistes qui travaillent en Afrique mais également ailleurs. Alors, de 1979 à 1981, il effectua plusieurs recherches sur les métallurgistes bassars au nord du Togo. Alors, c'est pas le premier qui fut stupéfait par l'ampleur de la production du fer dans cette zone. Les explorateurs et administrateurs allemands, durant la fin du 19e et le début du 20e, ont relaté la vigueur et l'omniprésence de cette activité dans cette région togolaise. Mais Bruno est le premier à y voir les fondements et le développement de cette région et de cette société. Dès ses premières recherches sur ce peuple bassar, il pose les jalons des questionnements qui animeront tout au long de ses terrains et ses réflexions. Il s'attacha à la fois à comprendre la formation sociale de cette région, tournée vers une production industrielle du fer, les techniques mises en place et mises en œuvre, et les conséquences économiques, politiques et sociales d'une telle production. Alors Bruno Martinelli explique la constitution des agglomérations du Pays Bassard par, des migrations coordonnées de groupes de fondeurs et de groupes forgerons. En effet, dans cette région, la métallurgie n'est pas opérée par, un même groupe. Les fondeurs se distinguent des forgerons par leur activité technique, mais aussi par leur appartenance à des communautés distinctes et par leur établissement dans des espaces éloignés. Donc on a une chaîne opératoire qui est vraiment, je dirais, découpée, séquencée et positionnée géographiquement dans des zones distinctes. Donc ainsi, la complémentarité techno-économique entre ces groupes les aurait amenés à coordonner leurs déplacements et leur production aurait attiré auprès d'eux de nombreux groupes de chasseurs et d'agriculteurs, conduisant de la sorte à la formation de plusieurs localités densément peuplées. Moins que la séparation des spécialités professionnelles, c'est l'importance des modes de déplacement, de groupement et d'organisation dans l'espace social qui, pour le Pays Bassard, a retenu l'attention de Bruno Martinelli. Même si, je dirais, les recherches actuelles et ultérieures menées, par exemple, par Stéphane Dugast dans la zone ont montré des déplacements plus complexes et parfois indépendants, Bruno Martinelli est le premier à retracer l'histoire du peuplement de ces populations en distinguant des différences d'identité suivant la spécialité technique qu'elle maîtrise. D'ailleurs, nous avons toujours un problème sémantique quand on essaie de désigner les acteurs de la métallurgie. Il est facile de désigner, de définir le forgeron, c'est celui qui produit les objets. Il est facile de désigner le mineur, celui qui extrait la matière première, le métallurgiste qui fait l'ensemble des opérations de métallurgie. Mais par contre, on n'a toujours pas de mot pour désigner celui qui transforme le minerai en métal. On ne peut pas appeler métallurgiste parce que ça comprend les forgerons. Transformateur, ça fait un peu électricien. Réducteur, ça fait réducteur de tête. Et en fondeur, ça ne nous va pas parce que fondeur, c'est plutôt les... Il n'y a pas de fusion dans la métallurgie traditionnelle du fer, puisqu'on réduit la matière, elle est toujours à l'état pâteux. Et fondeur, ça évoque plutôt le bronzier ou l'orfèvre, mais pas le métallurgiste. Et on a toujours des problèmes sémantiques à désigner cette activité-là, parce que dans l'inconscient, et aussi parce que plutôt en Europe, cette phase-là, elle est aussi opérée par les forgerons. C'est-à-dire, on a un métallurgiste qui s'occupe de toutes les opérations. Et là, on a une originalité togolaise, africaine, où parfois, dans certaines sociétés, on a vraiment des spécialistes qui ne s'occupent que d'une partie de la chaîne opératoire. Et donc, on a du mal, nous, à les nommer. Bruno révèle également un partitionnement raisonné de l'espace suivant l'étape de la chaîne opératoire et des ressources naturelles à disposition. Un tel partitionnement spatial, social et technique ont bien sûr interpellé les archéologues engagés dans la restitution des stratégies d'exploitation du paysage et d'aménagement du territoire par les hommes au cours du temps et dans le cadre de leur activité technique. Il s'est aussi intéressé dès son terrain togolais à la technique et à l'expression technique. Alors, même si pour ce terrain, il parle d'une profonde homogénéité technique de la métallurgie, il remarque également des différences plutôt formelles dans la construction des fourneaux. Je le cite, les fourneaux de Bassard atteignent 3,50 m de haut et 1,50 m à 2 m de diamètre à la base, ceux de Bangeli, Bassar est une zone de la région Bassar et Bangeli une autre, ont par contre 1,50 m de hauteur pour moins d'un mètre de diamètre. Il est possible que différents styles de construction se soient progressivement imposés. Les fours de Bassar sont oblongs et inclinés au nord, ceux de Bangeli sont cylindriques et verticaux. Pour approcher et comprendre la mise en place de différentes manières de faire et des choix conscients au nom des hommes, il évoque pour la première fois la notion de style dans la construction des fours. Par contre, il s'attache peu à observer les éléments de déchets, les éléments de production plus chers aux archéologues et qui sont des indices également de la variété technique. C'est en cela que style, technique, construction des fourneaux, morphologie des constructions font partie parfois de mondes différents, mais nous y reviendrons par la suite. La spécialisation et la complémentarité technique sont au cœur de cette première étude. Je ne crois pas qu'il emploie déjà le terme de dualiste pour parler du système observé dans la métallurgie Bassar, mais il présente l'organisation de cette activité comme une forme d'originalité de symbiose. La symbiose entre les forgerons, d'une part, et les fondeurs de l'autre, qui résulte d'un partage social des tâches métallurgiques. Elles fondent le système de production et se caractérisent par l'adaptation des équipements et des procédés, ainsi que par l'entretien de relations régulières et d'échanges et de concertations. Pour Bruno, les fondements de ce système dualiste sont à chercher dans l'appartenance ethnique des groupes de spécialistes. Il en résulte une histoire différente et des migrations coordonnées. Les bicipes, les fondeurs, viennent du nord-est, alors que les colis forgerons émigraient de l'ouest. Là encore, la compréhension de l'organisation sociale de la métallurgie est à trouver dans l'histoire du peuplement de ces spécialistes. De 1986 à 1988, en bénéficiant d'un rattachement à l'Orstom au Burkina Faso, Bruno diversifie ses terrains, Togo, Ghana, Burkina Faso et Mali, et observe d'autres configurations dans l'organisation de la production métallurgique. En effet, la longue chaîne opératoire de la métallurgie a donné lieu en Afrique à des formes de division du travail d'une grande variété. Cette variété est favorable pour mener une démarche comparative, et Bruno s'y est attelé. Comme avant lui, il déplore la confusion presque générale entre forge et métallurgie. On revient à ces problèmes sémantiques qui rendent souvent inutilisables une grande partie des informations ethnographiques anciennes, puisqu'elles ne permettent pas de définir clairement l'identité des personnes impliquées dans la production du fer et dans les structures sociales dans lesquelles cette activité s'est développée. Son article de 92 présente différents systèmes d'organisation socio-économique et tente d'en comprendre les fondements. L'intérêt principal de ce texte réside dans le tableau brossé tant des acteurs en présence que des rapports qu'ils entretiennent envers leur activité. Bruno distingue l'organisation des ferriers ou agriculteurs métallurgistes qui produisent et fournissent du fer auprès de forgerons, de celles des forgerons, seuls véritables artisans qui sont autonomes pour l'acquisition, la transformation du minerai, la fabrication des objets. Les premiers, relativement polyvalents, s'opposent aux seconds, nettement plus spécialisés. Je voudrais faire une parenthèse parce qu'on a évoqué ça en début de matinée. Voici une photo de la reconstitution qu'il a fait des techniques, des fours Bonga au Yatinga. Juste pour que vous sachiez, parce que c'est vraiment très récent, il y a une volonté au Burkina Faso menée par Lassina Saint-Poré de faire classer certains sites métallurgiques en bien en série à l'UNESCO, dont le site de Ronga. Parce qu'il est menacé puisqu'une exploitation d'or est en train de s'installer juste à côté du site métallurgique, et comme ils vont faire exploser la montagne d'à côté en faisant exploser, certainement le bas fourneau va disparaître. Et en tout cas, c'est vrai que je dirais que le film qu'a fait Bruno, et les enquêtes qu'il a menées sont un témoignage inestimable de ses connaissances et de ce savoir-faire qui a disparu, qui est en voie de disparition. Et c'est vrai qu'à l'initiative, je pense, de cette inscription, de cette volonté d'inscrire ces biens en série, eh bien, peut-être qu'on sera même à proposer de monter ce film, si l'accès en est possible, parce que c'est vrai que c'est pour nous vraiment inestimable, et je pense que ça participerait en tout cas à valoriser cette inscription. Donc il traduit trois organisations socio-économiques de la métallurgie en trois systèmes socio-économiques. Le premier, le système dualiste, comme je vous ai dit, où les ferriers, les agriculteurs s'occupent de l'extraction et de la réduction du minerai. Et transmettent le fer brut au forgeron pour le transformer en objet. Donc ça, il a observé au Togo. Un système unitaire qu'il a observé au Yatinga, où l'ensemble de la chaîne opératoire est aux mains des forgerons. Et puis un système mixte qu'il a observé au Pays d'Ogon, dans la plaine du Sénou, où la phase de la réduction, donc de la transformation minerai métal, est opéré à la fois par des agriculteurs et des forgerons sur un même site. Pour comprendre une telle diversité de l'organisation, il s'attache à voir si elle ne reflète pas des rapports différents entre pouvoirs territoriaux et modes d'exploitation. Ainsi, trois configurations se distinguent et rejoignent celles des systèmes socio-économiques établis en premier. Donc, dans le système dualiste, il s'aperçoit que les lieux d'extraction étaient exploités exclusivement par des producteurs autochtones. La maîtrise de la terre par les ferriers, par ces agriculteurs associés à la chefferie, présente donc des caractéristiques particulières d'appropriation symbolique du lieu. Dans le système mixte, les lieux d'extraction étaient exploités simultanément par des autochtones et par des allochtones. Et pour le système unitaire, ils étaient exploités seulement par des allochtones, parce qu'en fait, les forgerons du Yatinga sont des forgerons sédentaires quand il s'agit de la forge, mais ils sont mobiles et nomades quand il s'agit de la réduction. En fait, ils bougent et ils se déplacent vers les zones de ressources minières. Et ce système unitaire renvoie donc à une triple mobilité, comme je vous l'ai dit, à la fois déplacement des métallurgistes vers les zones, vers les gisements de fer, transport après du fer brut vers les villages pour la transformation en objet, et c'est également eux qui s'occupaient des voyages pour vendre la production, donc l'exportation de leur production, donc une triple mobilité. Ces distinctions renvoient là encore à une démarche d'historien qui puise l'explication d'une diversité sociale dans le processus historique des divers groupements humains. Ainsi, l'évolution des organisations métallurgiques témoignent à la fois de complexité sociale et d'éclatement de cadres sociopolitiques restreints qui peuvent avoir été liés ici ou là à certaines phases de leur histoire. C'est dans ces réflexions et cette classification sociale que j'ai moi-même puisé durant mon travail de thèse et de post-doctorat pour analyser la diversité des traditions sidérurgiques et des acteurs de la sidérurgie observés au Pays d'Ogon. Cette variabilité des statuts techniques pose évidemment, mais en tout cas c'est Bruno qui a posé ces premières questions de transmission et d'évolution des techniques. Quand on a diversité, quand on a diversité technique, quand on a une diversité d'organisation socio-économique, eh bien comment on fait pour transmettre cette technique? Est-ce que cette transmission est également un processus divers? Avec un premier article en 1993, Bruno tente de classer les structures de réduction et donc les techniques. C'est le seul, et là je vais employer un terme, hein, mais c'est le seul fou qui s'est attelé à une telle démarche, parce qu'il est allé puiser dans toutes les archives, les articles, parce que c'est un énorme travail de récolte d'informations pour avoir tous les dessins, tout ce qu'avaient fait les ethnographes avant lui, les archéologues, essayer d'amasser une telle, je dirais, de telles données, de faire un travail de comparaison à l'échelle de l'Afrique de l'Ouest avec des recherches qui ne sont pas de même niveau, de même profondeur, de même précision, et essayer de regarder ces objets, de les comparer. Actuellement, c'est le seul qui a mené une recherche de telle ampleur sur l'Afrique. On essaye de la poursuivre. Il y a un site internet qui s'est monté qui s'appelle Metal Africa qui essaye de récolter les données. Mais je dirais que c'est vraiment c'est à la suite, hein, à la suite d'une telle démarche qu'on essaye de continuer cette récolte d'informations. Alors pour cela, il élabore un système prenant en compte la morphologie et l'architecture des fours, ainsi que les phénomènes thermiques, c'est-à-dire la localisation de la zone de combustion dans le four, le système de circulation des gaz, la dynamique de la charge minerée combustible. Son but était de répondre à la question suivante: peut-on distinguer des métallurgies de ferrier et des métallurgies de forgeron en Afrique de l'Ouest? Alors, à partir de ces données, pourtant, sur la boucle du Niger, il a fait plusieurs constats, dont le suivant, c'est que les fours à induction artificielle, c'est-à-dire ceux qui utilisent les soufflets, eh bien, sont uniquement le produit des forgerons métallurgistes, alors que les fours à induction naturelle, eh bien, eux sont construits et utilisés à la fois par les forgerons et les ferriers. Même si ces conclusions peuvent être discutées, puisque maintenant on s'aperçoit aussi que dans le temps, il y a des différences qui s'instaurent. Voilà, c'est une histoire dynamique, celle de la sidérurgie. Eh bien, elle permet de réfléchir à la question des formules techniques. Les fours à souffler ou sans souffler appartiennent-ils à des mondes de conception distincts? Pour Bruno, c'est le cas, et à ce titre, ils ne peuvent correspondre à des organisations sociales analogues. Et il essaye encore, je dirais, comme un historien, de poser la question de l'antériorité d'un système sur l'autre. L'étude particulière des processus sociaux et des procédures techniques qui se sont développées autour de la métallurgie au Yatanga va permettre à Bruno Martinelli de proposer une première réponse. Durant la seconde moitié du XVIIIe siècle au Yatanga, on assiste à la constitution d'un État centralisé et d'une société stratifiée. C'est dans ces conditions que s'est accomplie une mutation importante de la technologie métallurgique. En effet, les anciens fours que vous voyez dans l'image du haut étaient de type cellulaire à aération continue et à fosse. Ils donnaient des métaux en quantité limitée, mais avec de fortes proportions d'acier. Appelé bondas, certainement ça ne se prononce pas du tout comme ça, mais bon, archéologue, nous, la linguistique, on n'est pas super bon. Ils étaient construits par des ferriers, donc par des agriculteurs. À partir de la fin du XVIIIe siècle, s'est mis en place un nouveau mode de réduction directe, originale, à partir de l'invention d'un four à haute colonne, celui que vous voyez dans la photo du bas, régi par une combustion lente. Ce four, appelé Bonga, est conçu pour traiter d'importantes quantités de minerais. Ce système technique appartient au forgeron Moss. Il comprend également deux autres fours à souffler qui permettent de retraiter et d'épurer la loupe de fer. Ainsi, au Yatanga, des producteurs polyvalents sont devenus des forgerons métallurgistes selon les critères imposés par le pouvoir des souverains. en changeant leur technique et leur rapport à leur activité, ils ont répondu à la volonté de produire plus et à destination de marchés externes. La soumission de ces métallurgistes au pouvoir, puis leur consentement à un régime d'enclosure sociale, a eu pour compensation un monopole accru sur la production du fer et une mobilité économique et migratoire. Une telle proposition historique qui lie à la fois organisation sociale, changement, mutation technique et je dirais le pendant archéologique, puisque nous on peut, je dirais, décortiquer les vestiges qui en sont le fruit de cette mutation, sont pour nous d'une valeur inestimable et à ce jour un exemple unique. En 2010, durant le colloque que nous avons organisé à la MMSH, Bruno renoue avec la sidérurgie africaine et pose la question suivante. Pourquoi la sidérurgie africaine est-elle affaire de style? Dans sa communication qui, hélas, ne s'est pas traduite par un article, il pose l'interrogation de la diversité de la métallurgie sur le plan du style, car elle n'est pas seulement le produit de principes techniques différents, elle manifeste la diversité de ses choix à bien d'autres niveaux. Forme et structure des fourneaux, disposition d'action, chaîne opératoire en relation avec les organisations sociales de production, statuts sociaux de métallurgistes. Tout au long de ces réflexions et de nos réflexions, nous nous heurtons dans la compréhension de cette diversité à la complexité de cette activité et des acteurs qu'elle engage. Grâce à Bruno Martinelli, même si aujourd'hui on a encore du mal à répondre aux raisons d'une telle diversité technique en Afrique de l'Ouest, eh bien, il nous permet d'avoir vu la diversité des acteurs, le foisonnement, je dirais, la complexité qu'engendre une telle activité qu'on ne peut plus approcher seulement par la technique ou par l'économie ou par la politique ou par l'organisation sociale. C'est un fait social total qu'on doit prendre en compte. Cette communication n'avait pas pour objectif de proposer de réponse alors qu'il le faisait, je dirais, dans ses recherches ultérieures. Il voulait nous faire réfléchir, je veux dire, il avait pris là aussi de la hauteur et il voulait nous faire réfléchir, anthropologues et archéologues, à la manière dont nous interrogeons la diversité, convergence, différence, notion de choix. Et il nous proposait le style comme carrefour de disciplines. Il permettait aussi il était pour moi à l'interface de différents points de vue, à la fois le point de vue des savants, mais aussi des acteurs. C'est pour cela que je souhaite, en guise de conclusion, vous proposer, et je vous engage à relire ces articles sur l'apprentissage de la forge en milieu MOS. C'est des articles que je fais régulièrement, régulièrement lire à mes étudiants en archéologie, parce qu'ils sont fondamentaux pour comprendre ce qui se joue à la forge entre processus de construction sociale et système d'apprentissage cognitif. Et ils sont l'illustration des différentes positions que doivent suivre l'apprenant. Je vous remercie. Merci.